Le livre bleu, écrit par Jeonghwa Choi et traduit du coréen par Marion Gilbert. Elle venait d'emménager et se vouait désormais corps et âme à la décoration d'intérieur. Elle brûlait de passion dès qu'elle recevait l'un des magazines auxquels elle s'était abonnée, du genre Intérieur Magazine, Maison de Diana, Créativité et Décoration, House Modeling. C'est simple, elle surlignait au fluo tous les propos des rédacteurs, et même les pubs, pour ne rien oublier, puis collait des post-it sur les pages dont elle devait absolument se souvenir. On aurait dit une candidate au concours de la fonction publique en train de lire le code civil. Son regard passait frénétiquement en revue toutes les photos de salon tendance jusqu'à ce que ses globes oculaires soient injectés de sang. Il n'y avait qu'un seul moyen de devenir la reine de la décoration d'intérieur. Étudier, encore et encore. C'était la meilleure façon d'aiguiser sa sensibilité. Une fois formée par les photos des magazines, elle appliqua son savoir à son salon, à sa chambre ou encore à sa cuisine. C'était une femme qui se lassait vite. Il ne se passait pas un mois avant qu'elle ne change la disposition des meubles. Au lieu d'en racheter de nouveaux, elle les déplaçait et couchait ceux qui devaient être à la verticale pour donner un air de changement et éviter toute dépense inutile. Son mari ne montrait pas un grand intérêt pour la décoration. C'était une bonne patte qui s'adaptait à tous les environnements. Il était agréable et riait si fort que son rire semblait rebondir au plafond. Une seule fois, il était resté perplexe. Lorsque la cravate qu'il aimait tant avait été découpée en trois morceaux pour décorer la table en verre. Mais même là, il n'avait pas pris conscience que son visage était rouge de colère au moment où il s'était mis à rire aux éclats. Au printemps, sa fille avait reçu de son grand-père un bureau pour fêter son entrée à l'école primaire. Elle-même avait donc récupéré l'ancien et l'avait retourné pour en faire une petite bibliothèque. Il était en pin solide, d'un beige couleur chair. Elle l'installa au salon, à gauche de la télévision, puis y cala quelques livres. Elle les enlevait et les rangeait de nouveau comme une femme frustrée par le contenu de sa garde-robe et qui changeait sans cesse le tenue avant un rendez-vous galant. L'épaisseur des livres lui posait problème. Elle les trouvait bien trop fins. Ils étaient tous de la largeur d'un pouce. Or, cette nouvelle bibliothèque méritait au moins des ouvrages de 5 cm d'épaisseur. Il était grand temps de faire entrer de nouveaux livres dans sa maison. À la librairie, elle se retrouva embarrassée, c'est vrai. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était une épaisseur et elle ne connaissait aucun nom d'auteur, encore moins un titre ou un éditeur. Le libraire quinquagénaire, d'une extrême maigreur, la dévisageait à travers ses lunettes. « Vous cherchez quel livre ?» Elle hésita un moment, son doigt tapotant le comptoir. « Je ne sais plus, j'ai perdu le titre. »«
Vous voulez dire que vous l'avez oublié ?»
Le libraire avait répondu d'un air apathique.
« Oui, voilà, je l'ai oublié. »«
Vous savez qui l'a écrit ?»«
Non. Tout ce dont je me souviens... » Entre son pouce et son index, elle forma un espace d'environ 5 cm qu'elle porta au visage du libraire. « Ce qu'il avait à peu près cette épaisseur.
Mm-hmm. »
Il cherchait à gagner du temps pour qu'elle reste dans sa boutique sans avoir l'intention de trouver la réponse à cette énigme.
« Cette librairie est pleine de livres dans le genre. Vous n'auriez pas d'autres informations ? Ça parle de quoi, par exemple ? Peut-être que j'arriverai à vous aider si vous aviez plus d'indices.
« Je crois en connaître la couleur. »«
Ah bon ?»«
Oui, j'aimerais qu'il soit bleu. »«
Il est bleu ou vous souhaitez qu'il soit bleu ?»«
Oui, il est bleu. » »«
Ah, zut, la couleur de la couverture ne figure pas dans la description. Désolée, je ne pense pas pouvoir le trouver. »« Un livre bleu d'une épaisseur de 5 cm, des ouvrages comme ça, je pense qu'il doit y en avoir 2, 3, ou au moins un au rayon philosophie. » Elle y fila tout droit sans même prendre la peine d'écouter les derniers conseils du libraire. Comme il l'avait dit, elle trouva des livres de l'épaisseur voulue rangés par couleur. Elle désirait le bleu qui figurait sur l'étagère la plus haute, celle qu'elle ne pouvait atteindre qu'en demandant l'aide d'un employé. Lorsque le vendeur monta sur l'échelle et le sortit, une poussière dense s'éleva dans les airs. Dès qu'il lui remit le livre, elle se rendit à la caisse pour payer. Le libraire lui tendit le ticket.
« C'est le livre dont vous parliez tout à l'heure ?»
Oui, il est bleu et d'une épaisseur de 5 cm. C'est bien celui-ci.
Vous auriez dû me dire que c'était un Heidegger. Je l'aurais trouvé du premier coup.
Aïe quoi ?
Merci beaucoup, Maïté. Donc, je suis Cécile Gopeau. Je vais servir d'interlocutrice à mes camarades de la revue Graminée. Et donc, je vais profiter de cette petite référence à Heidegger pour vous parler de l'existence de cette revue et de tout ce qui a pu s'y trouver depuis 5 ans qu'elle existe. Donc, c'est une revue de nouvelles étrangères qui défriche et explore la littérature née sur des territoires différents. Elle rassemble dans chaque numéro 10 textes du monde entier, 2 par continent. Et elle a la particularité d'allier le travail de la traduction avec le travail d'auteur de nouvelles et d'illustrateur. Et donc, évidemment, ce soir, on souhaite vous emmener à la découverte de littératures qui sont chatoyantes, comme le titre peut y faire référence. Depuis 2019, on a donc 5 numéros, couple, évasion, promesse, faune, couleur. Et je vais vous présenter les 3 personnes qui sont les porteuses de la revue, qui en sont la cheville ouvrière. Nous avons donc juste à ma gauche Eve Villa, qui est traductrice et cofondatrice de la revue, directrice de publication. Elle est traductrice de l'anglais et elle s'intéresse beaucoup à la littérature contemporaine, avec une prédilection pour la nouvelle. Et en 2018, l'envie de diffuser très largement ce genre, beaucoup plus largement qu'actuellement, la décide à fonder, à cofonder l'association et la revue Graminée. Et elle intervient depuis 2023 à l'Université d'Angers, dans le cadre du master de traduction littéraire. Elle-même est diplômée de l'école de traduction littéraire en 2023. Nous avons également Anaïs Nectou, qui est titulaire d'un master professionnel de lettres appliquées aux techniques éditoriales de la Sorbonne Nouvelle. Et elle a travaillé dans le domaine de l'édition pendant 13 ans, plus particulièrement dans le secteur du livre illustré, ce qui est particulièrement utile compte tenu de l'ambition de la revue Graminée. Et aujourd'hui, elle est conceptrice, rédactrice dans une agence de communication, March Design, et elle coordonne les activités éditoriales et divers projets. Et donc, c'est à ce titre-là qu'elle intervient comme soutien éditorial de la revue. Et nous avons également Cyril Lomonier, donc, qui est traducteur et soutien éditorial également de la revue, traducteur de l'anglais et de l'italien, chargé de cours à l'Université de Bologne, puis à l'ISIT de Paris. Il a révisé notamment les traductions de Raymond Chandler et puis traduit des nouvelles inédites de Truman Capote dans la collection Quarto Gallimard. Une partie de son activité porte sur la littérature jeunesse et pour Graminée, il a traduit différents textes de l'italien, de Hawaï ou d'Afrique du Sud. Eve également a traduit différents textes pour la revue et c'est au titre à la fois de porteur de la revue et de traducteur qu'ils sont nos interlocuteurs ce soir. Donc peut-être une première question sur la genèse de cette revue, comment cette revue a été créée, les raisons de son existence, est-ce que c'est un déclic, une découverte, une rencontre? Je vous passe la parole.
Bonsoir. Donc en fait, on a créé la revue avec Nathalie Tournillon, qui est une éditrice spécialisée dans le livre illustré. Nathalie et moi, on se connaissait depuis plus de 20 ans, on travaillait dans l'édition ensemble et on a eu envie de fonder d'abord un projet commun parce on a toujours travaillé pour les autres et on avait envie de porter un projet qui nous ressemblait. Donc Nathalie, elle avait une spécialité dans plutôt tout ce qui touche la fabrication, l'objet livre, elle s'intéressait beaucoup au dialogue texte-image. Et donc, c'était ce qui l'a motivé dans la création d'une revue illustrée. Et moi, j'avais un parcours dans le milieu des revues parce que j'avais travaillé pendant 5 ans pour une revue francophone qui publie des nouvelles aussi, qui s'appelle la revue Saint-Ambroise. Et donc, j'avais vraiment l'envie de porter le genre de la nouvelle. À Saint-Ambroise, j'avais eu l'occasion de proposer des traductions. Et en fait, j'avais envie de multiplier cette expérience. J'avais contacté d'autres revues, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient partants pour publier de la nouvelle. Et donc, finalement, on s'est lancé. C'était un peu tous les ingrédients, voilà, qui nous ont motivés pour partir dans Graminée. Ensuite, donc, on a fait ces trois premiers numéros, Nathalie et moi, et ensuite Cyril nous a proposé une traduction pour le numéro 3, et puis il est resté avec nous. Et ensuite, Nathalie a décidé d'arrêter la revue après le 4, et Anaïs est arrivée sur son cheval blanc pour nous rejoindre. Et donc, on a fait ce numéro 5 tous les trois.
Donc c'est à la fois un renouveau et une continuité qu'on va trouver dans cette revue. Ce qui est aussi le fil conducteur de la revue, c'est le fait de choisir des textes qui viennent de différents pays. Et on peut se demander, à travers les différents thèmes que vous avez choisis, comment vous choisissez les textes, comment vous arrivez à faire dialoguer ces textes qui vont être issus de cultures nécessairement différentes, de langues différentes. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir un thème? Voilà, plusieurs questions comme ça sur vraiment la création de la revue, sa mise en idée comme ça.
Alors c'est vrai que dès les premiers numéros, ce qui était important, c'était d'avoir un thème qui permette une multitude, une diversité d'interprétations. Ce qui explique que chaque thème soit au pluriel, entre parenthèses à chaque fois, que ce soit les promesses, évasion, etc. Et c'est encore le cas évidemment pour couleur, avec toutes les connotations, tous les imaginaires que ça peut apporter. Et donc l'idée... pour ce numéro-là, couleur, on sortait d'un quatrième numéro, faune, qui, vous le savez pour certains et certaines, parce que je vois qu'il y a des lectrices et lecteurs fidèles présents ce soir, et on vous en remercie. C'est vrai que peut-être le dernier numéro, faune, était un petit peu chargé, on va dire, qu'il nécessitait une certaine implication, un certain engagement de lecture. Et on a voulu partir dans des univers plus fantasques, voilà, changer un petit peu d'atmosphère. Et l'idée de couleur est arrivée grâce à ton fils.
Oui, mon fils m'a demandé de lui dessiner du violet. Et en fait, c'était donc un petit peu une colle, bien sûr. Et ensuite, suite à ça, un peu de temps après, un traducteur m'a parlé d'un texte qui avait trait à la couleur et qui avait l'air fort intéressant. Bon, il s'est trouvé qu'après des recherches, il n'a pas pu retrouver le texte, mais ça a donné le déclencheur. Et j'avais donc parlé à Marion Gilbert, qui est traductrice donc du livre bleu qu'on a entendu tout à l'heure, du thème. Et elle a tout de suite rebondi. Elle nous a donné un extrait. Elle nous a parlé de la nouvelle et de ce qui était le cœur de cette nouvelle. Et vraiment, ça nous a séduit d'emblée. Et on s'est dit qu'on allait vraiment partir avec ce thème-là. Aussi parce qu'il offrait, oui, effectivement, cette promesse de quelque chose de plus léger par rapport à faune, oui, effectivement, qui était peut-être un peu pesant. mais en fait, oui, à chaque fois, le thème, c'est ce qui permet de faire vraiment le lien avec des univers qui n'ont rien à voir entre eux. Et à chaque fois, c'est aussi une envie qui naît de discussion. Qu'est-ce qu'on a envie de lire? Et ce qui est surprenant, c'est que le thème, on le propose aux traducteurs, aux traductrices. On leur demande de traduire un échantillon, de nous expliquer, de nous faire un court résumé de la nouvelle. Mais on n'a pas le texte entier, parce qu'on ne veut pas les faire travailler pour rien. Donc on a vraiment, en général, un petit extrait et leur point de vue. Et à partir de ça, il peut y avoir des surprises. Une fois qu'on dit OK, quand on a le texte entier, on est surpris finalement de leur interprétation, de leur point de vue. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous, c'est de voir que la subjectivité du passeur, de la passeuse de texte est très forte aussi dans le projet.
Et alors, qu'est-ce qui vous touche dans les textes que vous choisissez? Est-ce que vous êtes touché de la même manière, ou est-ce que c'est à chaque fois un parti pris stylistique, par exemple, ou qu'est-ce qui vous amène à finalement, au-delà de la thématique couleur, vous arrêter sur un texte et pas sur un autre, par exemple?
Ouais, je crois que c'est ce qui fait toute la richesse de ce travail, c'est toute la part de subjectivité, évidemment, puisque en fait cette revue est née comme un terrain d'expression pour les traducteurs et traductrices, pour qu'ils aient l'opportunité de partager, de défendre des textes qui leur tiennent à cœur. C'était comme ça d'ailleurs que je vous avais rejoint sur le numéro 3 avec un texte de Marco Ursano qui s'appelle Le Plongeur, qui se rapprochait plutôt du conte que de la nouvelle peut-être pure et dure. Et voilà, c'était un univers qui me parlait, c'était un texte que j'avais lu plusieurs années auparavant et qui était un petit peu resté avec moi, en moi. Et c'était l'occasion de le partager avec un lectorat. Maintenant, il me semble, alors j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, mais que effectivement nos sensibilités individuelles interviennent bien sûr dans notre perception des textes. Un de ceux que j'ai pu traduire justement pour ce numéro-là s'intitule Jaune, Yellow. C'est une nouvelle irlandaise qui évoque de manière, comment dirais-je, qui par le biais de la science-fiction et de la fantasy évoque la maternité ou paternité, et en tout cas la parentalité, qui était pas nécessairement un thème qui me tenait plus que ça, auquel je tenais plus que ça, mais Anaïs et Ève étaient particulièrement passionnées. Et non, ce qui était intéressant, c'est qu'en réalité, l'intérêt aussi littéraire du texte m'est apparu au fur et à mesure de la traduction. Et donc, j'ai été sensible presque a posteriori.
En fait, quand on a pensé la revue, on a pensé aussi à une ligne éditoriale. Donc, c'est aussi ce que je propose aux traducteurs, traductrices que je contacte. C'est-à-dire qu'on cherche des textes qui sont décalés soit par rapport au thème qu'on propose, justement pour créer la surprise par rapport à la découverte. On s'attend, on a des attentes quand on lit le thème, et finalement on est assez surpris de ce qu'on nous on reçoit, mais le lecteur est surpris aussi finalement. Soit par le style, le ton qu'il y a dans le texte. Donc il y a quand même toujours cette envie de décalage et cette envie d'éclectisme aussi, qui au départ est là. Ensuite, le fait de faire confiance aux traducteurs et de les solliciter aussi. On commence à connaître aussi leur univers. C'est aussi des personnalités qui s'intéressent à la littérature contemporaine dans les pays dont ils sont spécialistes. La plupart sont des traducteurs qui prospectent, ce qui n'est pas le cas de tous les traducteurs. Beaucoup de traducteurs et traductrices répondent à des commandes. Là, on a des gens qui s'intéressent à ce qui se lit, s'écrit aujourd'hui, qui souvent sont amis avec des auteurs et ont envie de proposer des textes. Donc, de toute façon, on a déjà cet enthousiasme-là quand les textes sont proposés. On a cette surprise. On n'est pas toujours, on ne sait pas toujours exactement ce que ça va donner finalement. Mais c'est aussi les personnalités qui transmettent qui sont assez fortes. Par exemple, je pense à Lola Mazelba, qui est traductrice de l'arabe. C'est la deuxième fois qu'elle nous propose un texte. Elle a fondé avec les étudiants de l'INALCO la revue Café, qui est donc aussi une revue de littéraire de traduction de langue minorée. Et Lola, c'est quelqu'un qui cherche des auteurs qui a aussi cette envie de transmettre. D'autres traducteurs et traductrices sont dans le même cas. Je pense à Marie Vrina, qui est une éminente traductrice du bulgare et qui a beaucoup fait pour faire connaître aujourd'hui la littérature bulgare, ou Chloé Billon, qui traduit du croate, du serbe. En fait, c'est des gens qui sont dans des démarches comme ça pour promouvoir une littérature qui est souvent peu présente sur les tables. Et c'est ce qui nous donne envie d'aller vers eux et puis de faire découvrir des textes qu'on n'aurait pas sinon l'occasion de lire forcément. Parce qu'encore une fois, la nouvelle n'est pas beaucoup portée.
C'est ce que j'allais dire, le genre redouble encore cette difficulté d'accès, oui. En fait, finalement, à la fois sur une culture qui peut être pas majoritaire dans les publications, et puis le genre de la nouvelle. Et alors, il y a un autre élément qui me paraît particulièrement intéressant dans la revue Graminée, c'est aussi le travail avec les illustrateurs. Et c'est vrai que comment se fait ce travail-là? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que les illustrateurs arrivent une fois le choix des textes achevés, ou est-ce qu'il y a un dialogue qui se construit au fil de l'élaboration de la revue. Est-ce que ça vous conduit à renoncer à des textes ou à renoncer à des illustrateurs sur le chemin? Comment se fait ce chemin-là? Est-ce que voilà, il y a une volonté peut-être de mettre en lumière certains illustrateurs aussi, puisque c'est vrai que l'illustration prend une part importante et puis l'objet aussi, le livre, sa forme le favorise. Voilà.
En tout cas, non, le choix d'illustrateurs ne vont pas nous faire renoncer à des textes, parce que c'est plutôt un chemin parallèle. En fait, on choisit les textes et en parallèle, on s'intéresse au travail d'illustrateurs qu'on aime bien et qu'on a envie de voir dans la revue. Jusqu'à maintenant, on a à chaque fois eu un illustrateur différent par continent. En fait, le principe, c'est que l'illustrateur illustre les entrées, comme on a pu voir juste avant. Hop. Si je remonte. Voilà. Chaque continent est illustré par une personne différente. Alors, il y a peut-être un changement qui sera possible un jour d'avoir peut-être un illustrateur ou un artiste qui illustrerait toute la revue. Mais pour l'instant, on est resté sur cette idée d'avoir un illustrateur, d'avoir une voix, enfin une touche, une signature différente pour chaque continent. Mais voilà, c'est un travail un peu parallèle. C'est leur interprétation du continent, mais pas forcément. Certains lisent les nouvelles, mais enfin, la plupart sont intéressés par la nouvelle, mais peut-être qu'ils pourraient ne pas la lire. Ça serait pas un problème.
D'accord.
Ouais, et j'ajouterais aussi que l'illustration, elle a été voulue dès le départ aussi pour faire venir à la nouvelle des gens qui n'étaient pas forcément sensibles, en se disant qu'en créant un bel objet avec quelque chose de moins austère aussi que peut-être les revues ou les recueils qu'on a par ailleurs, avec la rencontre avec Mathilde Dubois, qui est notre graphiste, est très très importante aussi, parce que elle a vraiment concrétisé matériellement nos idées, nos envies. Par exemple, la colonne, c'est elle. Nous, on vient d'un mode, on va dire, plus basique de la mise en page. Elle est restée vraiment sur, finalement, le concept de la revue en proposant la colonne, avec toutes nos peurs, en se disant, mais est-ce que ça va gêner la lecture ou pas? Voilà, en fait, il me semble que ça passe très bien. Pareil pour les phrases en exergue, on pouvait aussi se dire, mais est-ce que c'est pas un petit peu, voilà, t'as pas l'œil? Enfin, voilà, c'était aussi une autre façon de mettre le texte en mouvement et d'amener des gens pour que ce soit moins, peut-être moins classique, moins austère, voilà, et d'ouvrir, parce qu'on se rend compte quand même aussi que c'est souvent les mêmes personnes qu'on retrouve quand on va faire des lectures de nouvelles. Les gens qui aiment la nouvelle, oui, c'est dur d'ouvrir ce cercle-là. Alors, avec la nouvelle étrangère, on arrive peut-être un peu, parce qu'on arrive par le biais de la traduction, l'idée aussi peut-être du voyage, enfin, de lire autre chose. Mais c'est vrai que c'est un genre qui est, voilà, qu'il faut porter.
Il est porté avec un vrai parti pris par la revue, justement. Comme tu le décris, c'est très riche de diversité, de styles et de propositions, en fait, qui sont à chaque fois percutantes à différents titres. Donc vraiment, je vous invite à découvrir la revue si vous ne la connaissez pas. Et donc, par rapport au fait de sélectionner les textes, de les refuser, par exemple, de les accepter, à quel moment on se dit, là, c'est bon, j'ai vraiment une proposition qui me paraît très intéressante sur à la fois la thématique, les différents continents, une représentativité, et puis voilà, j'imagine que le choix doit être un peu cornélien parfois. Comment vous y arrivez
Je dirais que le critère numéro un, c'est l'effet. L'effet à la première lecture. C'est vrai que, par exemple, on parlait du Livre bleu, qui a été vraiment le premier texte qu'on a sélectionné. Dès qu'on l'a lu, dès qu'on a eu la présentation de Marion, on savait que celui-là, on le voulait. Voilà, c'était le vraiment la base, les fondations pour ce numéro-là. Et ensuite, il y a des textes dont l'effet est plus lent peut-être à arriver. Donc on se les garde sous le coude. Tu évoquais Lola Mazelba tout à l'heure, qui nous avait proposé par exemple une nouvelle égyptienne qui était très intéressante, qui se passait dans un bus, mais alors qui était dans une atmosphère plutôt contemplative, où ça prenait du temps vraiment pour que ça fonctionne. Et puis ensuite, au vu de l'agencement avec les autres textes qu'on avait pu sélectionner ou que l'on avait en tête, ça fonctionnait pas, ça s'intégrait mal, il y avait un problème d'équilibre, et donc finalement, on a opté pour un de ces autres choix. Et je crois que cette notion d'équilibre est importante. Tu parlais déjà de la représentativité, bien sûr, des différents continents. Mais ensuite, avoir une certaine dynamique, un certain mouvement dans le parcours du numéro aussi.
Oui, ça se fait par petites touches. En fait, on peut avoir des textes très forts par moment. Et donc, les textes qu'on va choisir après, on a ça en tête. Et donc, on va chercher quelque chose de plus doux. Ou alors, au niveau des rythmes aussi, si les textes ont une certaine lenteur, quelque chose qui va se poser dans le temps, on va avoir besoin de trouver des textes plus rythmés ou beaucoup plus courts, finalement, pour créer un petit effet à la lecture. En fait, chaque recueil est conçu comme une lecture, finalement, d'un point A à un point B, même si après, j'imagine que les gens vont picorer. Mais
oui, justement, c'était la question que je me posais. Est-ce que ça peut être aussi un bouquet, finalement, où on va piocher telle ou telle fleur pour en sentir les parfums, ou est-ce qu'on a une lecture linéaire? C'est pas forcément évident de se dire, mais en tout cas, ça veut dire que le bouquet doit avoir une certaine forme d'harmonie, même si elle est dissonante à certains
surtout liens. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. D'accord. C'est quand ils se heurtent et qu'on a des tons qui n'ont rien à voir. Il me semble que c'est ça qui est. Et après, il y a des textes qui sont vraiment, comme on disait, des pépites finalement qui tout seuls tiennent et qui vraiment envoient, quoi. Et il y en a d'autres qui prennent de la saveur parce qu'ils sont justement entourés. Et comme ça, ils se mettent en valeur les uns les autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. Mais je pense que tous ont quand même, de toute façon, une qualité littéraire au départ. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même intensité, peut-être.
Mais simplement pour évoquer l'importance de l'agencement, on a été un peu sévère avec notre numéro faune. moi, je l'aime beaucoup quand même. Et en particulier, la dernière nouvelle qui s'appelle « Le langage des geckos ». Et je pense que c'est pas un hasard si c'est la nouvelle qui conclut le numéro. Voilà, ce numéro qu'on a dit chargé, « Le langage des geckos », on souffle, on respire. Voilà, c'est comme si on avait parcouru un long voyage et qu'à la fin, on pouvait se reposer un petit peu. Ça me paraît pas anodin que la nouvelle ait sa place à cet endroit-là.
Très bien, on va passer.
La combi rose, écrit par Emma Neal et traduit de l'anglais de Nouvelle-Zélande par Eve Villa. Je présume que si cette scène a vraiment eu lieu en Amérique, le jade ne provenait pas de Te Waipunamu, étant donné que l'on trouve aussi du jade en Californie, là où nous habitions. Quoi qu'il en soit, lorsque ma mère a ouvert son cadeau, son visage a révélé une confusion et un malaise qu'elle s'était forcée de réprimer. Il se passait quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Je me souviens de ne l'avoir vu pleurer qu'une seule fois. De douleur, quand un minuscule fragment d'ongle avait volé dans son œil alors qu'elle coupait les ongles de pied de ma sœur encore bébé. Je ne l'avais jamais vu aussi touchée. Même la télé américaine à l'approche de Noël n'avait pas montré une réaction comme celle-là. Dans les publicités pour les jouets. Les cadeaux étaient censés être ouverts dans de grandes embrassades collectives, toutes dans dehors. Un festival de propreté, de peau parfaite, d'efficacité, de joie amicale et de superbes chevelures. Nous étions tous en robe de chambre. Trois d'entre nous sûrement décoiffés, ma mère probablement la seule à s'être brossée les cheveux pour l'occasion. Je me souviens d'avoir regardé l'emballage de Noël pour essayer de comprendre ce qui clochait. Quelque chose allait de travers. Le bijou était déjà cassé? Il lui manquait quelque chose? Mais la tristesse sur le visage de ma mère m'a fait penser « Est-ce que le collier et le bracelet sont si moches que ça? Comment est-ce que je peux savoir ce qui est moche? Comment est-ce que je peux comprendre ?» J'ai trouvé que les cadeaux auraient l'air envoûtants sur elle. Ma mère a des yeux très verts, vraiment. Elle me raconte que les yeux verts sont plus fréquents dans la fiction que dans la vraie vie. Je me demande si ça l'a aidée de façon subliminale à faire d'elle une écrivaine. Trouver son image dans les romans, voyant ses yeux exceptionnels sur le plan statistique, sa différence reflétée, est-ce que ça l'avait confortée de façon inconsciente? Mais elle a caché son visage dans sa chevelure châtain. Sous le soleil californien, ses pointes avaient viré au roux, ce qu'elle détestait.
même si elle adorait le gingembre confit, et que ma sœur avait un ours géant, nommé Ginger Bill, et que l'expression Ginger Lee était belle. Mais qu'est-ce qui clochait avec le cadeau ? Peut-être que je n'ai réellement compris que quand j'ai eu 16 ans, et qu'un petit ami m'a rapporté des cadeaux après un voyage à l'étranger. Des boucles d'oreilles en forme d'éventail doré, un collier avec un pendentif éventail doré, un parfum fleur tropicale, de frangipanier ou d'hibiscus, au nom oublié aujourd'hui, de même que sa légère fragrance sucrée. J'étais désorientée. Les offrandes n'étaient pas du tout à mon goût, mais le geste paraissait follement généreux. Et il émettait le léger bourdonnement d'une nouvelle expérience, par ailleurs d'un romantisme conventionnel, suffocant. Dès que j'ai eu déballé mes cadeaux, mon petit copain s'est jeté sur moi avec une force et une insistance qui semblaient impliquer que je lui devais quelque chose. Il m'arrachait un dû. Il m'a poussée sur le lit et je me suis sentie comme les pauvres femelles pigeons, tout agitées, blessées à coups de bec et écrasées, et curieusement, en même temps, complètement ignorées par les mâles, ces bœufs. Je dois l'avoir compris à ce moment-là, car aujourd'hui, on dirait que les deux événements sont classés dans le même compartiment de ma mémoire. Des cadeaux terribles. Terribles. La parure de ma mère était une sorte de bakchiche, d'excuse, ou de pot de vin. Ce n'était pas du temps. Ce n'était pas de la compagnie. Ce n'était pas être à la maison quand il disait qu'il y serait. À la maison le week-end. Le cadeau était aussi un moyen d'honorer sa beauté, bien sûr, ce qui est une bonne chose, humaine. Les bébés ne passent-ils pas une éternité à contempler des figures symétriques ? Mais ce n'est pas suffisant pour soutenir et réparer l'édifice de l'amour. Je me souviens aussi qu'une partie du choc provenait de la dépense. Le cadeau n'était pas dans nos moyens. Le côté disproportionné faisait partie intégrante de l'étrangeté de la scène. Si ça avait été des livres, ou des carnets, des stylos, ou une machine à écrire, du papier ou même un t-shirt bon marché avec le portrait de son auteur préféré et un jeu de mots certes mauvais mais pardonnable, le cadeau en aurait dit davantage sur le fait que mon père écoutait ma mère, la connaissait vraiment.
Merci. Peut-être vous pouvez nous commenter cet extrait, qu'est-ce qui préside à ce choix de lecture et de texte, d'ailleurs, dans la revue.
Alors, ce texte-là, je crois qu'il nous a vraiment plu à tous les trois d'emblée. Donc, Emma Neal, elle écrit des romans, des nouvelles. Et ce qu'on a aimé, c'est cette espèce de digression à partir du tableau de départ qui l'a fait voyager dans le temps, dans son histoire personnelle. Et puis après, il y avait la langue aussi. Donc, ces digressions qu'il fallait suivre dans la traduction. Et puis, des choses qui étaient très, centrées sur le contexte géographique et sur, par exemple, des choses plus difficiles à traduire. Par exemple, on entend à un moment donné le fait que sa mère ait les cheveux qui vire au roux, et donc en anglais roux c'est ginger, et il y avait tout un passage avec le gingembre, le terme, l'expression gingerly, pas mal de choses qu'il fallait rendre après en français, donc c'était aussi le challenge de la traduction de la langue qui était intéressant et qui donne lieu à des discussions, parce que tout le travail, finalement, ça va être de rester soit au plus près, soit donc de s'en éloigner pour donner l'intention. C'était aussi intéressant pour ça, enfin, ce texte-là.
Avec l'idée, évidemment, au cours des discussions qu'on a eues, en particulier sur ce passage-là, le fait que si on adopte une technique ou une politique de traduction, qu'on ne peut pas vraiment faire de compromis, et d'entre-deux. Par exemple, ce petit nounours, il a eu plusieurs noms. On lui a cherché des... Est-ce qu'il pouvait s'appeler, je ne sais plus, Rouquin
C'est Anaïs qui proposait, mais Billy le Roux.
Billy le Roux, oui. Sauf que, si on faisait un entre-deux où parfois Ginger était traduit, parfois il ne l'était pas, Ça fonctionnait plus. Donc voilà, c'est toujours la question du curseur, de l'adaptation et de l'accessibilité du texte.
Oui, parfois
en français.
S'éloigner du texte pour mieux le retrouver finalement va être toute la difficulté de l'exercice.
Oui, et puis et c'est vrai que nous on a un parti pris qui consiste à mettre le moins de notes possible pour qu'on soit vraiment finalement dans le texte et que ça permet aussi au lecteur d'être dans une démarche parfois de traduction parce qu'il doit déduire un sens du contexte. Et ça, on trouve ça plutôt intéressant d'entendre aussi évidemment la langue d'origine. Donc on va avoir des termes parfois qui restent de la langue et on va pas forcément les expliciter, gloser, enfin tout ce qu'on peut avoir parfois en traduction. Nous on peut laisser le lecteur finalement avec ce terme là et oui cette déduction. Oui c'est ça. Et bon jusque là on n'a pas eu de plainte, mais c'est vrai que. Par exemple, pour le numéro 3, il y avait un texte qui s'appelait Fanta Cassis et l'autrice mêlait des termes swahili à l'anglais sans jamais traduire en notes quoi que ce soit déjà dans la version d'origine. Et donc, quand j'ai eu à le traduire, évidemment que je voulais rechercher le même effet. C'est un texte que je prends souvent quand je donne des cours, je le propose à mes étudiants, de justement me donner une définition des termes en swahili sans... aller sur Internet et les déduire et ça marche vraiment bien et c'est là qu'on sent que qu'en fait on peut très bien quand on est plongé dans un texte on fait le lien on comprend d'emblée après la traduction aussi doit être à la hauteur et doit permettre ça si c'est présent dans le texte d'origine mais c'est quelque chose qui nous semble intéressant aussi parce que finalement ça fait une lecture un peu moins accompagné peut-être qui peut aussi surprendre parce que on peut être arrêté mais finalement en même temps ça ouvre aussi à d'autres langues là par exemple on a un texte néo-zélandais avec la langue d'origine Tereu je crois que ça s'appelle Tereu. On a gardé certains termes. Là aussi, le travail quand on traduit, c'est de quand même solliciter l'auteur ou l'autrice pour avoir nous une idée fine de ce que veut dire le terme, ce qui permet après la traduction. Du reste, en fait, on garde le terme d'origine, mais nous, on est quand même tenu d'avoir cette connaissance fine du terme pour pouvoir bien l'entourer, finalement.
Et puis pour laisser la place au lecteur de l'inventivité, finalement, et de créer avec vous en partie.
Oui, sans trop le guider. Alors sur l'exemple que tu donnes, je me rappelle en particulier d'un passage où on traverse comme une jungle et en gros on arrive sur le territoire d'une certaine race d'oiseaux et en fait donc cette race d'oiseaux voit le personnage principal, lui fait un signe pour en gros lui souhaiter la bienvenue sur ses terres. Et alors c'est deux phrases, hein, c'est une phrase, c'est deux lignes, et il y a trois ou quatre mots effectivement de cette langue que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, et qui est pourtant la langue qu'a choisi l'auteur d'origine. Et voilà, est-ce qu'on conserve tout ? Et à ce moment-là, il y a le risque de l'accessibilité pour notre lecteur. Francophone, est-ce qu'on traduit tout et à ce moment-là on perd la richesse du texte d'origine ? Sur celui-là, on a fait un compromis. Un compromis, ce qui est un bon score, il me semble.
Ben oui, on avait trois termes qui suivaient. A peep of Pukeku Poiri the girl onto their Papakanga. En fait, si on gardait les trois termes maori, on n'aurait pas pu comprendre, nous, la phrase après traduite. Donc, en fait, on a traduit un terme sur les trois et ça donnait une nuée d'oiseaux Pokeko accueille la jeune fille dans son Papakanga. Donc en fait, on avait ajouté le terme oiseau pour que on comprenne de quoi il était question. Et puis Papa Kanga, on peut voilà, c'est le territoire, c'est leur home. Mais du coup, on pouvait le déduire dans la phrase. C'est vraiment tout un... Et alors ça, c'est le fruit de discussions très très longues entre nous, mais qui sont en même temps hyper intéressantes parce qu'en plus. On n'a pas la même approche, on n'a pas la même compréhension, forcément.
Si, il faut plein de notes. Non, il faut aucune note.
Voilà, c'est ça.
Oh, on pourrait peut-être en mettre une pour une fois.
C'est un bon témoignage sur la manière dont vous travaillez, mais il y a aussi d'autres traducteurs que vous publiez dans la revue. Donc comment vous faites pour arriver à corriger ces traductions dans le sens que vous souhaitez, dans ce sens-là? Comment vous vous assurez que c'est finalement l'esprit dans lequel les textes que vous avez choisis vont être traduits ou ont été traduits, et comment se fait la correction sur des langues que vous maîtrisez pas du tout, pour le coup, pas juste un mot, mais finalement, comment on arrive à garder ce cap-là à travers des traductions de différentes langues?
Ben, on évoquait en début de rencontre le rapport de confiance et la collaboration dans une forme de solidarité avec les traducteurs et traductrices. On revient encore à Lola Mazelba, qui a traduit un texte qui s'intitule « Le cambrioleur aux chaussettes blanches ». Et il y a eu un certain nombre de discussions avec elle, puisqu'il y avait des propositions en français qui nous paraissaient extrêmement obscures. Comprenait vraiment, en s'investissant dans la phrase, où est-ce qu'on voulait en venir, mais il y avait quand même une forme de résistance. Et ben, on a contacté Lola justement pour échanger sur ces passages-là. Et alors, parfois elle retravaillait pour une meilleure accessibilité, parfois nous expliquait que la langue de son autrice, la langue d'origine, était comme ça et pouvait être difficile d'accès. Et justement, c'est intéressant de conserver cette résistance.
Oui, puis d'autant qu'il y a des courants en traduction, il y en a deux principaux, certains qui sont plus donc tournés, traducteurs, traductrices, tournés vers la langue de départ et qui ont envie vraiment de conserver au maximum finalement cette étrangeté dans le français pour qu'on soit plus près du texte d'origine, et d'autres qui sont plutôt, on va dire, ciblistes, donc dans notre langue d'arrivée, et qui vont être dans ce qu'on appelle la fluidité dans l'édition, c'est-à-dire dans la grande édition. C'est vraiment le mot qui revient quand on vous demande une traduction, c'est qu'il faut que ce soit fluide. Des traducteurs qui sont à l'INALCO vous diraient que la fluidité, c'est pour la crème fraîche et pas pour la traduction. Donc, vous voyez, à peu près, on a vraiment deux courants très différents. Et suivant le traducteur ou traductrice qu'on a en face, on peut pas lui demander un grand écart. Et en plus, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est d'avoir ces deux pôles-là présents dans la revue, il me semble. Et donc, déjà, il y a une première approche du texte qu'on a en main, c'est-à-dire que on sait qui nous parle et quel choix il ou elle a fait de traduction. Donc c'est vrai aussi que Lola, par exemple, elle va vraiment s'attacher à rester au plus près du texte de départ, volonté de garder effectivement parfois des sonorités ou alors on va pas, ce qu'on peut faire dans l'édition, on va dire courante, couper des phrases très longues pour que le lecteur soit plus confortable. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Après il y a des traducteurs qui ou traductrices qui ont envie plutôt d'aller vers quelque chose qui sonne français, je sais pas comment. Et donc là on va peut-être être plus intervenir finalement. Nous, au départ, on est quand même là juste pour soulever des questions. On est souvent en mode commentaire, pas vraiment en mode réécriture. On est des premiers lecteurs, donc comme on n'a pas accès à la langue, c'est est-ce que cette étrangeté, est-ce que ce questionnement que le texte nous pose, il est là d'emblée, est-ce qu'il est voulu, est-ce que c'est quelque chose qui t'a échappé au moment où tu traduisais, enfin voilà, c'est les questions qu'on peut poser. Et c'est la seule chose qu'on peut finalement nous faire de notre côté, parce que comme on n'a pas cet accès, c'est vraiment le questionnement du texte tel qu'on l'a, et tout en étant dans ce respect de la démarche. Parce qu'encore une fois, on est avec des personnes qui ont un vrai positionnement dans leur recherche, dans leur prospection, dans leur démarche.
C'est l'engagement dont tu parlais initialement.
Et Oui, c'est ce qui fait aussi la, enfin, il me semble, la richesse de la revue, c'est que ça repose sur des personnalités aussi comme ça.
J'imagine que le dialogue est très fécond entre vous et puis vous et les traducteurs, justement, sur ces points-là. Est-ce que parfois il y a des tensions, des dissensions, ou est-ce que j'imagine que la fluidité qui n'est pas recherchée par la revue ou pas toujours, elle ne se manifeste pas forcément toujours, que justement c'est ça qui fait tout l'intérêt aussi de ce dialogue, c'est un dialogue intellectuel sur des partis pris, sur des choix de traduction, des sens dans lesquels les choses vont, parce que ce sont des revues qui ne sont pas traduites initialement, c'est la première traduction qui paraît dans la revue, hein, peut-être qu'on l'avait pas précisé dès le départ, mais donc il y a tout ce travail là de création, finalement.
En fait, oui, on n'a pas précisé que nous ne traduisons que des auteurs, autrices, contemporains, reines, vivantes. Donc, c'est vraiment la littérature qui s'écrit aujourd'hui. Et en général, ce sont des auteurs, autrices qui n'ont pas été publiés. Parfois, ils l'ont été pour leurs romans, mais jamais pour leurs nouvelles. En revanche, ce sont la plupart du temps des gens qui sont reconnus dans leur pays ou à l'international.
Ils ne sont pas traduits, oui. Ils sont publiés chez eux.
Enfin, voilà, c'est ça. Donc voilà, on a quand même des gens qui ont une certaine renommée aussi au niveau des auteurs et des autrices. Et les traducteurs, je pense à Sylvain Cavaillès notamment, qui nous avait proposé une traduction du turc pour le numéro 3. Sylvain, c'est un traducteur qui a monté sa propre maison d'édition qui s'appelle Contre. Il vit à Istanbul et il publie des auteurs, avec encore une fois des forts partis pris littéraires, politiques. Et donc, c'est quelqu'un qui est très engagé lui-même dans la littérature contemporaine.
En particulier kurde.
Voilà. Alors, en fait, il publie et il est ami avec un auteur qui s'appelle Murat Özyasar, qui est un auteur donc issu d'une minorité kurde et qui, dans sa langue, en fait, retranscrit finalement ce choc entre la langue kurde et la langue turque. Parce que c'est une langue qui est vraiment fracassée et qui emprunte aux deux, mais qui a vraiment presque une violence finalement interne. Et quand il nous a proposé un texte, Sylvain, ce texte-là, c'était un texte que Murat avait publié dans une revue et qui parle de sa fille à qui il promet qu'il va arrêter de fumer. Donc c'est un texte quand même assez, on va dire, léger, dans le thème, mais la langue parfois pour nous était vraiment déstabilisante parce que on voyait bien que ça gênait la lecture en fait. On était dans quelque chose qui pouvait même être mal compris ou enfin voilà gêné. Et donc plusieurs fois on a fait des remarques à Sylvain en lui disant vraiment là on n'est pas sûr et il nous a dit mais de toute façon c'est comme ça ou je ne publie pas. Et donc, on a, de toute façon, dès le départ, on avait dit que c'était dernier mot au traducteur, traductrice. Ça, c'est vraiment aussi la chose auquel on se réfère quand on leur pose des questions. On essaye de les faire aller dans notre sens, un petit peu, en tout cas. Et puis, il y a un moment, on lâche parce que là, en l'occurrence, j'ai assisté à une rencontre avec Murat parce qu'il est venu à Paris. Et j'ai vraiment compris, en écoutant Murat qui parle de la langue, de sa langue, mais qui parle aussi de littérature, c'est quelqu'un qui est poète de toute façon, quand il s'exprime par nature. Et donc, en fait, ce que Sylvain essayait de me dire, je l'ai vraiment compris quand j'ai vu Murat. Et donc, quelque part, on se dit que là, on a vraiment bien fait, finalement, de reculer en tant qu'éditeur, parce que c'est ça aussi, l'éditeur, l'éditrice, on a peur de perdre le lecteur, tellement de le déstabiliser qu'il va lâcher la lecture. Mais là, en fait, c'est quand même essentiel d'avoir cette dimension-là dans la langue. Donc, le parti pris, c'est le dernier mot au traducteur, traductrice.
Un équilibre qui permette de ménager, mais pas trop, le lecteur, quand même. De pouvoir le bousculer un peu,
voilà, c'est ça.
Le sortir de ses pantoufles. C'est bien.
Ouais. Je peux me permettre d'ajouter une chose. De ce que j'ai pu voir sur les deux derniers numéros et demi auxquels j'ai pu contribuer, il me semble qu'il y a également, il a pu y avoir des occasions de résistance, non pas spécialement de la part des traducteurs et traductrices, qui sont souvent dans une dynamique de dialogue et... voilà, qui fait la richesse de notre activité. Il y a pu y avoir des résistances du côté des auteurs. On a eu en particulier le cas d'une autrice qui n'était absolument pas d'accord avec le titre qu'on avait donné à sa nouvelle en français, puisque c'était... elle souhaitait une traduction littérale du titre de sa nouvelle, et ça ne fonctionnait absolument pas en français. L'effet était complètement perdu, ça tombait à plat. Ça n'évoquait pas grand-chose. Et donc, voilà, parfois, il faut faire preuve de pédagogie et de diplomatie. Mais c'est normal, parce que c'était une de mes enseignantes, à l'époque où j'apprenais la traduction, qui nous avait dit « blindez-vous, parce que la langue, ça relève de l'intime. Et dès lors qu'on vous fera des corrections, dès lors qu'on vous fera des remarques, ça touchera quelque chose chez vous. » Et j'ai toujours gardé cette phrase-là en tête depuis.
Merci, on va passer à la lecture suivante.
Jaune, écrit par Nuala O'Connor et traduit de l'anglais, d'Irlande, par Cyril Lomonier. À l'entrée, une femme nous tend un filet à chacun. En imaginant ce moment, je ne voyais n'en manier qu'un seul. Nous n'aurions fait qu'un, nos quatre mains sur le manche, attrapant notre bébé ensemble. Deux fois plus de chance, lance Rob, en fouettant l'air avec le filet. Oui, je me dis, oui. Doubler la probabilité. Que du bonus. Oui, oui. Nous courons côte à côte dans le couloir, avec tous ces gens pleins d'espoir, en direction du dôme. J'aperçois des nourrissons tout en haut, qui s'élèvent et qui plongent. Ça sent la lotion et la peau de bébé. Une rose aux cuisses d'angelot vole vers moi, et j'écarte un homme de mon chemin pour essayer de l'attraper. Elle remonte et m'esquive sur le côté. Je saute haut, percutant encore le même homme, mais je la rate. « Va chier !» hurle l'homme avant de pourchasser la rose, en donnant de grands coups de filet dans le vide. Droit devant, j'aperçois Rob qui dirige son filet sous un bleu qui passait par là. « Arrête !» je crie en agitant les bras. Nous nous étions mis d'accord sur une rose et les règles sont claires. Un seul bébé par couple. Si Rob chope un bleu, c'est terminé. Qu'est-ce que tu fous ? Je hurle. Rob s'éloigne du bleu et abdique, les mains en l'air. Rose, je grogne. Et soudain, je l'aperçois qui ose une glissade au-dessus de toutes les roses et de tous les bleus. Jaune, vigoureux, malgré ses airs de tortue. Un esprit tranquille qui se balade à travers le dôme, voit les mouvements d'une centaine de filets et l'inquiétude des parents en devenir en contrebas. Mes yeux rencontrent ceux de Jaune. Son regard s'accroche au mien.
Merci. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a particulièrement enthousiasmé dans ce texte.
Oui, moi, c'est déjà j'aime beaucoup l'autrice Nuala O'Connor qui écrit beaucoup de nouvelles et qui s'intéresse à la flash fiction. Donc, c'est vraiment nos micro nouvelles. Et donc
c'est
déjà
vraiment une page.
Oui, voilà. Là, au niveau de la, c'est une page. Et donc, c'était intéressant d'avoir un texte aussi très bref comme ça au sein de la revue et qui, en même temps, il me semble, pose une ambiance tout de suite. Parce qu'il est assez, il y a beaucoup de mouvements dans le texte. Il arrive à nous situer dès la première phrase dans un univers qui est complètement atypique. Et en fait, on comprend tout de suite de quoi il est question. Donc, il y a vraiment, pour moi, ce que la nouvelle a d'intéressant, c'est-à-dire toute l'évocation, le fait qu'en quelques mots, on puisse entrer dans un univers, cette économie de moyens. Enfin, personnellement, j'y suis très sensible. Et voilà, donc c'était une entrée dans le texte.
Alors après, sur le traitement, donc véritablement le travail de traduction de ce texte-là, c'est vrai que sa valeur, c'est en particulier sur le fait que Alors, je ne sais pas si vous avez nécessairement fait attention à la lecture ou si vous en êtes rendu compte, mais c'est qu'en fait, la voix narrante, la voix de la narration, n'est pas genrée. Ensuite, les bébés peuvent l'être, même si ils sont pas nécessairement explicitement genrés en anglais. Mais bon, blue, pink, évidemment, ça renvoie à certains codes et à certains univers modernes. Et il y a cet élu finalement jaune qui apparaît. Et donc il y a eu effectivement plusieurs allers-retours, et c'est là où on voit vraiment le travail de collaboration, c'est que j'avais été assez, comment dirais-je, j'avais fait des choix au début sur cette traduction-là, et Anaïs et Eve sont revenues avec énormément de remarques extrêmement enrichissantes, et on a vraiment eu toute une séance de travail qui pour une fois était dans un bar, c'était bien sympathique. Mais voilà, c'est là où on voit aussi que la traduction et l'édition en général, c'est aussi un travail de rencontre et de collaboration, bien loin du traducteur solitaire, de l'écrivain solitaire. Non, c'est des rencontres de sensibilité, d'univers, pour donner un tout enrichissant.
Et puis bien loin du traducteur invisible tel qu'on pouvait l'imaginer à certaines époques aussi, puisque... Évidemment, là, c'est l'œuvre des traducteurs qui est au cœur de tout le processus de création de la revue et de sélection des textes. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Peut-être que vous pourriez nous donner des illustrations des empreintes culturelles que vous choisissez ou qui ont été choisies de laisser dans certains textes à travers la traduction. Ça peut être intéressant peut-être de montrer aux lecteurs ce type de dynamique dans les textes.
En fait, on est obligé un petit peu parfois. Enfin, oui, on est obligé d'adapter. Oui, par exemple, je pense au texte de Adam Marek. Adam Marek, alors lui, c'est vraiment un nouvelliste, c'est-à-dire qu'il a zéro chance d'être publié en France. Il a écrit trois recueils de nouvelles. J'ai fait pas mal de prospection, rien ne vient. C'est un auteur que j'aime beaucoup et qui s'intéresse aussi à la science, qui est entre deux, toujours. Sur un réel qui est sur le point de basculer ou qui a déjà basculé, mais en fait on le sait que par touche et par indice. Donc j'aime beaucoup sa sensibilité, et puis c'est aussi un papa dans ses recueils. Il est souvent il y a souvent des enfants, le rôle du père, c'est quelque chose qui le travaille pas mal, et je trouve que c'est pas forcément très présent en littérature, ces interrogations là et là justement c'est un père qui est face à son petit garçon qui parfois a des crises on va dire assez violentes. Et en anglais, l'enfant devient Sky Badger. Donc, en gros, c'est le blaireau céleste ou le blaireau du ciel, parce qu'il fait une espèce de position comme ça avec les doigts et il mord, il griffe. Mais voilà, c'est vraiment très très violent. C'est pas une blague. Sauf que Badger, blaireau, c'était trop connoté. Alors, c'est là aussi où nous, on a quand même ce luxe-là. C'est en discussion constante avec les auteurs. Et donc, moi, je peux leur soumettre mes questions. Je leur envoie des listes énormes de questions. Et du coup, essayer de lui proposer autre chose. Alors, il se trouve que le ratel, c'était Honey Badger. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, là, il y a quelque chose. Et je lui ai proposé, en lui envoyant la photo du ratel, est-ce que ça te va si on part plutôt là-dessus ? Et je lui ai expliqué que le blaireau en français, on avait trop de... Voilà, ça nous amenait vers autre chose complètement. Et ça, en fait, c'est pour moi, c'est très rassurant de pouvoir comme ça dialoguer avec les auteurs. J'en profite pour dire que on paye... tous les auteurs dans la revue, qu'on fait des contrats avec tout le monde. Alors, soit je passe par des agences, par la maison d'édition, mais beaucoup en direct avec les auteurs, ce qui nous permet de vraiment créer un lien, parce que quand on envoie un contrat, moi, je préviens que c'est un brouillon. C'est-à-dire que s'ils veulent supprimer des clauses, le contrat est en anglais, ils suppriment ce qu'ils veulent. Enfin, il y a vraiment un lien qui se tisse déjà à partir du contrat aussi. Et après, ce lien se poursuit dans la traduction, parce que je pose des questions qui sont souvent très basiques. Mais moi, j'ai besoin de savoir si l'auteur est en train de faire une création linguistique sur une expression que je comprends pas, enfin, que je comprends, mais ou si c'est quelque chose qui appartient à sa langue. Parce qu'en fait, je traduis des auteurs des Fidji, j'ai traduit un auteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, beaucoup d'auteurs africains, d'autrices africaines. Je ne suis pas spécialiste, en fait. Alors, deux questions se posent, c'est est-ce que je fais appel à des spécialistes ou est-ce que je le fais moi ? J'ai pris le parti, en fondant Graminé, de pouvoir traduire des auteurs, autrices de partout. Mais ça m'oblige à poser énormément de questions et parfois d'adapter ou pas. Mais en tout cas, il y a cette nécessité d'être vraiment au plus fin pour savoir si on est en français, on est aussi dans une création ou est-ce qu'on emploie une tournure qui existe déjà si la langue de départ finalement si c'était quelque chose que je connaissais pas de la langue de départ.
Puis après, il peut y avoir une dimension politique, historique, sociale ou sociétale que l'on ne connaît pas ou que l'on maîtrise mal. Moi, j'ai eu le cas de figure, par exemple, dans la nouvelle « Des dieux » de Clara Shaw, qui est une autrice singapourienne. Donc, c'est un texte qu'elle a écrit en anglais. Et on suit une dame d'un certain âge qui tient une boutique de figurines de divinité. voilà, de qualité aléatoire. Mais évidemment, on va... convoquer ces dieux-là, on va les nommer, etc. Et la manière dont elle transcrivait les noms des dieux et déesses était un petit peu particulière. Et donc, je lui demandais confirmation, je lui demandais pourquoi est-ce qu'elle avait choisi telle ou telle transcription. En particulier, je vous donne un exemple très concret, un dieu guerrier qu'elle nommait Quangong. Bon, je fais quelques recherches et puis je retrouve ce personnage avec une longue barbe et une hallebarde que peut-être les sinophones connaissent mieux sous le nom de Guan Yu, que l'on retrouve dans différentes histoires et aujourd'hui dans des produits culturels contemporains. Et donc je lui demande pourquoi est-ce qu'elle avait opté pour ça. Et elle m'explique qu'en fait, Quangong, à Singapour, cette appellation est plus ancienne et correspond à la génération qui parle Hokkien. Et elle m'explique que, en fait, la nouvelle génération a, entre guillemets, subi, elle a vécu une campagne dans les années 80 et 90 qui était la Speak Mandarin Campaign. Et donc, on a voulu imposer les transcriptions en pinyin à la population de Singapour, ce qui provoque évidemment une forme d'effacement d'un certain pan culturel de Singapour. Et donc, elle m'expliquait pour elle que c'était très important, au contraire, de conserver ces traces-là.
Donc, le fait de conserver la trace de la langue, ça permet à la fois de transmettre la culture d'origine et en même temps de respecter l'impact politique que peut avoir le choix de l'auteur dans sa langue d'origine. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la lecture suivante.
Des pommes vertes croquantes, ou Homo, écrit par Rémine Gamidjé et traduit de l'anglais de Namibie par Eve Villa. Caramel Wilson. Regarder ta mère chercher de nouvelles planques pour les paquets t'a enseigné tout ce que tu devais savoir sur les relations tendues entre gardiens de prison et prisonniers. Le gardien doit s'inquiéter de tout un tas de choses, la nourriture des prisonniers, leur santé, sans compter le spectre omniprésent de la violence. Le gardien doit surveiller tous les prisonniers. Mais les prisonniers, eux, ne se préoccupent que d'une chose. À chaque seconde de chaque jour qui passe, ils ne pensent qu'au gardien. Et ils le surveillent tous. Ils le connaissent mieux que lui ne les connaît. Ils savent la longueur de ses enjambées et le rythme de sa marche. Ils savent quand il arrive, avec une barbe naissante, qu'il a abusé de la bouteille et de sa femme. Ta mère, la pauvre, faisait de son mieux pour stocker les bonbons hors de portée. Mais ses plaisirs à 10 cents creusaient des trous dans nos dents et maintenaient la roulette du dentiste en activité. Romani Creams. Ils étaient strictement réservés au thé du vendredi. Chacun avait droit à deux biscuits. Manger et déguster lentement.
Le vendredi, c'était le meilleur jour de la semaine. À moins que des invités débarquent, parce qu'il fallait sacrifier un paquet entier au dieu de l'hospitalité. Encore aujourd'hui, il était difficile d'en acheter un paquet sans craindre de devoir le partager. Baume Zambouk, le seul, l'unique, le vrai Makoya. Vaseline, Blue Seal, un petit pot dans son sac à main, dégainé en vitesse à l'église quand elle apercevait un coude un peu cendré ou un front qui avait besoin d'être hydraté. Review Drum. Elle adorait les contes de Credo Moutois et, de façon embarrassante, toutes les histoires de tokoloshis qui fécondaient des femmes dans des villes d'Afrique du Sud. Tomates, oignons et carottes, au bord de la route. Elle veillait à les acheter chaque fois à une femme différente. Elle ne marchandait jamais le prix. Elle payait ce qu'elle demandait. Un jour, tu l'as interrogée là-dessus et elle a dit « Quand tu vois un prix dans un magasin, tu vas trouver le responsable pour négocier ?»« Non. Tu acceptes le prix d'un avocat, même si tu sais qu'il est trop cher. Mais quand les gens voient une personne pauvre vendre des fruits au bord de la route, la première chose qu'ils veulent, c'est voir de combien ils peuvent baisser le prix. C'est gênant de négocier avec des pauvres gens. » Lessive en poudre. Elle achetait la lessive pour lavage à la main. Elle faisait tremper le linge toute la nuit avant de le tordre et de l'entortiller dans la baignoire jusqu'à ce qu'il succombe à ses efforts. Quand elle a acheté une machine à laver, elle a eu un choc en découvrant combien un samedi pouvait être long quand on n'avait pas à frapper les vêtements pour les nettoyer. Parfois, tu l'appelais Homo au lieu de maman. Le surnom lui est resté sans jamais partir au lavage. Ton frère et toi, vous trouviez ça drôle de se référer aux tâches ménagères, de se moquer de ses efforts. Tu l'as appelée Homo parce qu'elle lavait ton linge quand tu étais jeune, mais tu ne l'as jamais appelée gentillesse quand elle mettait des pansements sur tes genoux. Tu ne l'as jamais appelée patience quand elle te supportait, toi et ton adolescence chaotique. Tu ne l'as pas appelée amour quand elle était là, seule présence féminine qui n'a jamais flanché. Toujours là quand on avait besoin d'elle. Toujours là, même quand tu disais qu'elle n'y était pas. Tu ne l'as jamais appelée du nom de ces belles choses qu'elle était pour toi.
Je vous laisse la parole sur la puissance de la fonction répétitive du texte, de la liste et du sens de la liste et en même temps de ces mots conservés finalement dans la langue d'origine et qui scandent le texte. Qu'est-ce que vous pouvez dire.
Ouais, c'est un texte qui est très touchant, donc écrit par un fils qui pense à sa mère décédée. Et en fait, il donc se balade comme ça dans un supermarché. Et c'est vraiment finalement ce qui lui reste d'elle, parce que voilà, c'est lui, il est dans l'écriture, mais sa mère pas du tout. Donc si ce n'est les listes de courses. Et donc il y a vraiment tout ce rapport à la perte et en même temps quelque chose de très du quotidien. Alors c'est les souvenirs, mais c'est aussi vraiment les anecdotes du quotidien. Et il y a aussi, oui, effectivement, ces termes qui reviennent. Je crois qu'il y a de l'afrikaans, il y a du swahili aussi, je pense, dans le texte qu'on a gardé parce que souvent c'était aussi des slogans. Qu'il avait entendu enfant, je pense justement à Homo, c'était Itakupatia, ce que tu recherches, et ça c'est dit plusieurs fois, Itakupatia, ce que tu recherches, et finalement, la dernière phrase du texte, c'est alors bouge-toi le cul et cherche. Donc en fait, on comprend le sens quoi de ce slogan, enfin avec le contexte. Et l'idée, c'était encore une fois d'entendre la langue d'origine et de rester avec voilà ce rythme aussi d'écriture. Parce que quand on garde la langue, on est aussi dans un rythme, dans un souffle. Et il me semble que dans la nouvelle, c'est quand même très très important de surtout pas rajouter des termes en fait et de garder encore une fois l'économie de moyens qui est liée au genre et d'être dans voilà dans cette dans ce côté ramassé de la langue aussi et garder donc la langue d'origine permet ça sans gloser quoi.
Et en fait il m'a fallu cette soirée, cette rencontre avec vous pour m'apercevoir de la place de la parentalité et de la relation parent-enfant dans notre sélection.
Mais c'est ce qui apparaît aussi après coup, c'est que finalement, on reçoit beaucoup de textes qui ramènent vers Enfin, je pense qu'il y a dans l'air, hein, il y a des choses dans l'air, parce que quand on propose des thèmes, on a souvent comme ça, enfin, des choses qui se retrouvent. Là, oui, ça, on va parler de la relation parent-enfant. Peut-être on devrait s'interroger nous-mêmes. mais oui, c'est
peut-être une idée de thème véritable pour la prochaine revue. C'est ça, le thème sous-jacent.
Ouais, parce que mine de rien, c'est, je crois, un des derniers textes, si ce n'est le dernier texte, et il s'intégrait parfaitement dans la sélection existante.
Oui, mais, tout comme faune, par exemple, quand on a proposé le thème faune aux traducteurs, traductrices, on avait quand même en tête, je sais pas, l'animalité, et en fait, on a eu énormément de textes sur le faune, le personnage du faune, et donc, alors, le faune proprement dit, mais des êtres hybrides, il y a beaucoup dans le précédent, comme ça de créatures en fait. Alors que nous, on pensait vraiment qu'on allait être dans quelque chose de plus animal. Enfin voilà, c'est drôle en fait, vraiment c'est drôle.
On passe peut-être à la dernière lecture, comme ça on aura peut-être 5 minutes pour des questions, si ça vous va.
Hugo Luis. Écrit par Laura Palacios et traduit de l'espagnol d'Argentine par Guillaume Contré. Ma grand-mère était capable de deviner le modèle qui correspondait aux jeunes femmes qui avaient atteint l'âge de chercher un fiancé et à celle, un peu moins jeune, qui avait laissé passer leur quart d'heure. Elle devinait la longueur adéquate pour la jupe de la jeune mariée et le diamètre du décolleté de celle qui entame son veuvage. Mais surtout, elle sut que pour les fêtes de nos 15 ans, ces pathétiques et terribles fêtes villageoises où la cumbia se mêlait à l'effroi, nous devions évoquer l'idée de fleurs. Pourtant, il y eut une fois où elle se trompa. C'était l'anniversaire de ma meilleure amie, et sa mère lui avait confectionné une robe inspirée de la fleur de campanule. Elle imitait le tremblement du pétale, le froufrou des petites feuilles, le fil nacré de l'étamine. Les blancs sépales, qui s'affinaient sur la taille, avaient été cousus dans un tissu aérien, comme une valse. À cette occasion, le modèle que m'inventa ma grand-mère était inspiré d'une photo de la chanteuse italienne Rita Pavone, à laquelle elle avait toujours aimé me comparer, qu'elle avait vue en couverture de la revue Radiolandia. En bonne couturière qui appréciait les mélanges, elle ne se contenta pas de superposer deux tissus. Je crois qu'à cette occasion, elle voulut faire davantage, bien davantage. Je crois que ma vieille grand-mère se proposa d'inventer la forêt vierge qu'elle n'avait jamais visitée, de dessiner fourmillements et feuillages. Une épaisseur de fourrée, de denses constellations de branches et de vrilles. D'une telle tentative naquit une robe épaisse, presque un territoire, d'où germèrent involontairement visions et présages. Il est des photos qui portent en elles les clés secrètes de l'avenir. Pourquoi, à côté des autres qui posent avec tant de légèreté, moi, sa petite fille, suis-je un calice nocturne, intense et abondant, cultivé au cœur du jardin des supplices. Pour la partie supérieure de ma robe, elle avait choisi un velours vert. Rien de mieux qu'un somptueux velours, aura dû penser ma grand-mère. Mais au cœur de cette pilosité profonde brûle quelque chose d'exténué. On dirait que la mort, attifée, y est presque palpable. Allez savoir pourquoi, ce tissu créait autour de lui une atmosphère morbide. Son arôme souterrain refusait de s'élever jusqu'aux couches les plus fines de l'air. Une densité malsaine lui interdisait de suggérer l'euphorie ou la folle insouciance. Afin que la partie inférieure de la robe atténue un tel karma, je lui proposais de la confectionner avec de la mousseline. Mais, obsédée qu'elle était par Rita Pavone, elle ne m'écouta pas. Sous le feu de mes protestations, dans l'état d'esprit de qui chante pour calmer un enfant, elle ajouta à ce corsage de velours une ample jupe bien touffue. En général, toutes les stylistes savent que les plis éventails sont capables de créer des mouvements clairs et paisibles. Le faîte de l'acacia se balance doucement et le tronc chante. Mais quelque chose ne fonctionna pas. Aujourd'hui, je me dis que ce fut le choix du tissu dans lequel fut cousue la jupe. C'était un satin au fond vert sombre d'où émergeaient d'immenses fleurs jaunes. Mais ces tournesols décapités, qui se débattaient entre la mousse et la pénombre, ne parvenaient pas à l'éclaircir. Ainsi, la robe entière ne tarda pas, avant même d'être inaugurée, telle une fleur cannibale, à se peupler de lourdes vibrations.
Les marécages et l'obscurité la submergèrent. Soudain, sans que rien ne l'annonçât, les faux jumeaux Fernandez, Hugo Luis et sa sœur Chuchi, commencèrent à venir au bal de la coopérative agricole. Ce fut là que je les vis pour la première fois.
Je vous laisse peut-être faire un tout petit commentaire et puis après, peut-être je souhaiterais quand même insister sur toute la dimension de promotion de la littérature contemporaine que permet cette revue à travers la forme nouvelle et vraiment vous inviter à découvrir la revue qui est juste là, pardon, sur le petit présentoir ici. Je vous laisse commenter peut-être ce texte rapidement et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester.
Juste, je dirais que c'est Guillaume Contré, donc qui est traducteur de l'espagnol, qui nous a proposé ce texte parce qu'il aime beaucoup le travail de Laura Palacios, qui écrit par ailleurs des ouvrages de psychologie et qui est pas forcément une écrivaine de littérature à proprement dit. Elle a fait ce recueil qui est un peu particulier parce que il présente des personnages qui sont liés à des gens qui peuplaient son village quand elle était jeune, et donc chaque nouvelle va dresser le portrait d'un personnage. Je sais que c'est un recueil qu'il aurait envie de traduire et de proposer. Moi en tout cas, c'est vraiment cette description des tissus de la robe et puis de tout ce que finalement il peut y avoir de présages, de prémonitoires comment l'ambiance est amenée juste par cet objet finalement. Moi c'est ce qui m'a pris d'emblée, mais
est-ce que vous avez des questions, peut-être ?
Merci à l'ensemble des intervenants. Merci Maïté pour ces lectures délicieuses. Je voulais savoir si c'était posé la question pour vous d'éventuellement mettre en perspective, enfin en parallèle plutôt, les textes sources.
Oui, on y avait pensé, mais là encore, dans cette démarche d'ouvrir le genre, enfin d'ouvrir, d'apporter le genre à des non-lecteurs de nouvelles, l'idée c'était de faire quelque chose qui soit le plus attractif possible, et on avait peur que la lecture bilingue finalement donne l'impression que c'était réservé à des gens qui s'intéressaient à la traduction, donner un côté peut-être plus érudit, l'idée, enfin, alors que ça allait à l'encontre vraiment de tout ce qu'on voulait mettre en œuvre avec la revue, en fait. C'est peut-être une fausse idée, mais en tout cas, c'était ce qu'on s'était dit.
Je voulais juste revenir sur... Je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée, vous l'avez peut-être abordé déjà, cet aspect. Votre revue vous avez indiqué plus cibliste ou parfois sourcière, ou les deux, ou de quoi dépend le parti pris, votre parti pris ?
Ça va dépendre du traducteur ou de la traductrice qui propose le texte.
C'est ça.
Ouais. Après... nous, vraiment, notre travail sur, par exemple, les textes qu'on va traduire tous les deux, on est quand même attaché à garder au maximum la langue d'origine, je crois. Peut-être Anaïs a des... Non, c'est... Oui, voilà, après...
Ouais. Alors après, il faudrait faire une analyse approfondie de nos travaux respectifs. De fait, c'est vrai que mon expérience, en fait, j'ai une assez forte expérience en littérature jeunesse, et dans ce domaine-là, on est extrêmement interventionniste. On est extrêmement interventionniste à la demande des maisons d'édition. Et moi-même, à chaque fois, ça me fait un petit pincement au cœur. Là, actuellement, je travaille justement sur un texte où on me demande de beaucoup couper. J'assume difficilement, par exemple, ce genre de choix. Donc, dans la négociation, je peux signaler les passages qui éventuellement me paraissent répétitifs, etc. Mais j'ai du mal à appuyer sur effacer, supprimer moi-même. Donc peut-être que effectivement avec Graminet, je me soigne et je me permets de compenser.
Oui, mais moi, c'est un peu... Alors, pas dans la littérature jeunesse, mais j'ai traduit pas mal de thrillers et de young adult, de romance aussi. Et c'est vraiment des textes, alors surtout peut-être pour la romance, où on est vraiment obligé de réécrire. En fait, on réécrit en même temps qu'on traduit, parce que, enfin, c'est peut-être, j'ai peut-être pas eu de chance, mais les textes sont pas toujours très bons à l'origine. Et donc, en fait, on impulse aussi du rythme, on donne un ton à des échanges, et parfois, ce sont des directives de l'éditeur, l'éditrice, hein, de donner quelque chose.
J'ai vécu aussi.
Voilà, de donner un petit peu d'ampleur au texte. Et c'est vrai que là, pour le coup, moi, je cible des auteurs et des autrices qui me touchent énormément, j'ai envie de défendre, parce qu'il y a à l'oreille aussi, dans le rythme, dans le ton, enfin, donc il y a l'envie d'être au plus proche de ça, de pouvoir le donner, de rien trahir, enfin, si forcément, mais, enfin, voilà, je pense de vraiment être dans une démarche où on est le plus fidèle possible, voilà. Et c'est pas grave si on dérange un petit peu le lecteur. Franchement, on va pas très loin. Voilà, c'est pas grave. Et c'est pas grave aussi si on le perd, parce qu'on n'est pas dans une démarche aussi purement de la vente. Hein. On va pas, on n'est pas sur du. Voilà, on tire à 300 exemplaires. Donc il y a aussi. Enfin, tout ça est un. Ça fait un tout, quoi, en fait.
C'est ça, parce que vous parlez de. On parle de traduction, et je voulais votre ressenti sur lorsqu'on on parle de traduction adaptation, est-ce que déjà on impulse une orientation ou enfin moi je préfère utiliser ce terme de traduction adaptation, mais c'est vrai que traduction adaptation on est peut-être beaucoup plus cibliste et donc c'est peut-être déjà on dit quelque chose.
C'est vrai que là je pense que la majorité des textes qu'on publie, c'est moins de l'adaptation. On est moins dans l'adaptation, clairement, je pense.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ?
Pas d'autres questions ? Eh bien, juste un mot, merci. Même plusieurs merci. Grands merci. C'était magnifique, passionnant, incarné aussi. On se croise depuis longtemps, salon de la revue ou festival de traduction. Et là, vous l'incarnez de très, très belle manière. Pour ceux qui n'auront pas eu la possibilité de venir, donc dans quelques temps, bientôt, grâce au travail du service audiovisuel de la FMSH, cette soirée sera disponible en ligne. Soyez attentifs aux actualités d'entrevue. Le mois de février ayant 28 jours, dans un mois, le 13 mars, nous recevrons une autre revue, moins de traduction, mais d'éco-poésie, la toute jeune revue Fun. Vous êtes conviés, même endroit, même heure. Et pour l'heure, vous pouvez vous approcher effectivement des revues. Passez une très bonne soirée. Merci encore.
Merci beaucoup.